Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonsoir, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors, ce soir, je vais vous parler de quelques parutions qui m'ont été adressées, en particulier celle de Simone Allier-Darram, Désinvolte Eros, collection poésie. Simone Allier-Darram, avec laquelle nous avons eu le plaisir de faire deux émissions. Sa dernière émission portait sur le 450e numéro d'Encre Vive, qui était constitué d'un de ses recueils, qui s'appelait Syllabes. Et nous avions fait une émission avec elle et notre ami Claude Barrère là-dessus sur Syllabes. Eh bien, Simone Allier-Darram, récidive, et fait publier « Désinvolte Eros », un recueil qui est dans la ligne de Syllabes. Hein, c'est-à-dire, on avait parlé de Syllabes en disant que c'était une écriture épurée, d'une grande densité, et que Simone Allier-Darram poursuivait le chemin lucide sur l'impossibilité de revenir en arrière, mais sans rien oublier de ce qu'elle a traversé. Dans Désinvolte Eros, on est sur ce ton qui est encore plus, je dirais, dense. Il y a encore une densité qui est plus forte dans ce recueil. J'avoue avoir été tout à fait enthousiasmé par cette qualité d'écriture de Simone Allier-Darram. C'est une écriture aussi très ramassée, une écriture où rien n'est superflu, mais où en même temps cette brièveté dans la façon qu'elle a de lancer le regard sur les choses et sur les sentiments que ces choses qu'elle voit lui inspirent, et en même temps cette façon très dense de dire le monde, fait que ce monde, eh bien, il vous arrive, je dirais, en pleine figure. Voilà. Alors, Désinvolte Eros de Simone Allier-Darram, c'est poésie, très belle illustration, première page, et c'est un recueil qui, en plus, ne coûte que 10 euros. 10 euros, il y a plus d'une trentaine de pages, 30 pages exactement, hein, de poèmes. Alors vous pouvez commander directement ce recueil chez Simone Allier-Darram. Je vous donne son adresse mail. Daramali, ça s'écrit D-A-R-A-M-A-L-I-E @free.fr. Je répète, Désinvolte Eros, poésie de Simone Allier-Darram, à commander à Daramali, Daramali, Daramalie, @free.fr. Voilà, je vais vous lire quelques extraits. Du temps où tu me vous soyez, j'étais nu sous mes crinolines, celle que tu as jetée au fond du buisson d'aubépine, et tu as bu ma nudité, il ne m'en reste qu'une moitié. Mon aimante et mon double, ma dernière aventure, ne dites pas les mots qui déflorent les yeux, laissez sans question les réponses, gardez selon regard où vous me buvez toutes. Le soir, le temps s'allonge, et la pelouse a repoussé sur les bords nus du fleuve. Il y a tant de fougue dans tes yeux qui me regardent. J'ai baissé les miens. Voilà, Simone Allier-Darram, Désinvolte Eros, nous aurons le plaisir de faire une émission et de lire pour les auditeurs de Radio Occitanie, les auditeurs de l'émission Les Poètes, de lire ce recueil en entier à la rentrée, enfin à la rentrée, donc dans un mois. Et puis, toujours une dame, Marie-Françoise Jesquier, la parole comme un cristal de sel. Alors, cette annonce de publication est sur la page d'accueil de notre site les-poètes.fr. Il s'agit là d'une brillante publication encore, des éditions Carder, hein, très, très bonnes éditions, les éditions Carder. La parole comme un cristal de sel. Alors avec des illustrations également de l'auteur, hein, Marie-Françoise Jesquier, Donc un petit peu comme beaucoup de poètes. Hein. La dernière fois, nous avons fait une émission avec Franck Bardoux, par exemple, qui illustre aussi ses poèmes. Là, c'est assez surprenant parce que vraiment, les illustrations sont vraiment l'œuvre d'artistes très, très confirmés. Voilà. Alors là aussi, c'est une très belle publication qui ne coûte que 12 euros. Hein, 12 euros. À commander dans aux éditions Carder. Vous avez, il y a 77 pages, c'est très bien mis en page. Enfin, c'est un très beau travail comme c'est fait le faire cet éditeur. Hein. Et nous aurons le plaisir également de parler un peu plus de cette publication Marie-Françoise Jesquier, La parole comme un cristal de sel. Vous trouverez les coordonnées de cette publication en page d'accueil de notre site. Neige de fleurs tremblantes. Contre l'ivresse des prés, d'un vin d'herbe neuve, l'aubépine vacille, en nuages de poudre blanche. La paupière mauve des nuages se lève sur l'œil flamboyant. On regarde le monde comme s'il brûlait le cœur. Les sols, au sourire penché, se vêtent de lumière salée. Peu à peu, l'aube monte aux paupières, à travers les reflets d'ailes moirées. Constellation de plumage noir, en impression profonde dans le champ clair de la lune, ocellé lancé dans le cercle sensible. Quel avenir prédit quand les corbeaux dédient leur signe d'onyx irisé? Respiration de craie criblée de pupilles, vol des corvidés jusqu'au vertige en notes diaisées, pianotant l'utopie sur la page encerclée, corvidée de toute résistance, quand les plumes d'encre restent bec cloué, lutte au pis pour garder sous tenelle l'ambivalence en noir et blanc. Marie-Françoise Jesquier, la parole comme un cristal de sel. Quand ils dormiront à point fermé, les arbres, branches repliées sous la tête, le crépuscule libérera le troupeau des étoiles piaffantes, mille sabots de lumière. Nous reviendrons sur cette publication, mais d'ores et déjà, je voulais simplement en signaler la parution. Et puis, notre ami Michel Cosem, qui n'arrête pas et qui fait paraître deux numéros d'encre vive. Alors, le 456e numéro d'encre vive, c'est un recueil de Éric Chassefière qui s'appelle « L'inaccessible ici ».« L'inaccessible ici ». Alors, né en 1956 à Montpellier, Éric Chassefière vit à Paris. Il est directeur de recherche en physique au CNRS et il étudie l'évolution du système solaire et des planètes. Il est également poète, auteur d'une vingtaine de recueils, parus chez plusieurs éditeurs, Encre Vive, nous en avons déjà parlé, Raphaël de Surtis, les éditions de l'Atlantique, Alcyone, les nouvelles éditions donc, Intervention à voix haute, La Porte. Et il a obtenu en 2015 le prix Georgios Sarantaris pour « Le peu qui reste d'ici ». C'est publié chez Raphaël de Surtis. Et il a publié récemment « Ce regard qui nous vient du monde » également chez Raphaël de Surtis. « Jusqu'au bout de la vie » et « Carnet du Vietnam » en coécriture avec Catherine Bruno, toujours encre vive, et « Déambulation du sable » aux éditions Alcyone. Édition d'ailleurs, je vous invite à aller voir, hein, de même que Encre Vive, hein, puisque maintenant il y a un site Encre Vive qui est très bien fait, et où il y a toutes les publications. Et donc Éric Chassefière fera paraître à la fin de l'année, de notre année 2016, un recueil intitulé « L'absent » qui sera publié par La Porte. Catherine Bruno réalisait l'illustration de couverture, c'est une reproduction en noir et blanc d'une toile à dominante grise, avec des éclats de rouge et de jaune acrylique, qui est en couverture. Ça rend d'ailleurs très bien en noir et blanc. Alors, un extrait de Éric Chassefière. Prologue. Sur quel chemin me suis-je égaré? Quelle main m'a parlé, a tenu au secret de sa pomme, ma tempe bruissante encore, de l'aube intérieure du rêve, en quelle nulle part de ma conscience, où, pour un instant, s'étaient joints les deux fleuves, me suis-je éveillé, hésitant, entre ce personne que j'étais encore et l'être de mémoire qui perçait, reprenait corps à la matière des choses. De qui m'éveillant me suis-je séparé, cet autre est-il maintenant plus loin dans le courant, lanterne qui se dérobe à mes regards, existe-t-il encore, le rejoindrai-je plus tard, ou bien ne sommes-nous qu'un seul, fils unique de notre mémoire, jamais en repos de nous-mêmes. Comment, maintenant retrouver le sommeil, redevenir cet autre, reprendre le cours de l'inaccessible ici. L'inaccessible ici, d'Éric Chassefière, 456e numéro de Banque Vive, a commandé à Michel Cozem de Allée des Allobroges, 31-770 Colomiers. Le numéro vaut 6,10 € et l'abonnement 12 volumes, donc un an, 34 €. Voilà. Et puis, le 457e numéro d'Encre Vive est dédié à Véronica Aranda, qui s'appelle Tatouage, Tatouaje. C'est extrait de Tatouaje, Hesperion, Madrid 2005, et de Café Afa, El Sastre de Apollinaire 2015. C'est une édition bilingue, traduite de l'espagnol, l'espagnol d'Espagne, par Rémi Durand et Véronica Aranda, elle-même. Alors, c'est un très beau recueil aussi, et si tout va bien, je pense que nous allons le lire en entier. Et donc, je réserve la lecture de ce recueil pour la fin de l'émission. Voilà, et je vous parlerai bien entendu à ce moment-là de Véronica Aranda. Alors, tout ça aussi est publié, bien sûr, chez Encre Vive, donc le volume vaut 6,10 €. Et puis, nous sommes maintenant début septembre, donc 2016. Chaque année, les gourmets de lettres organisent un salon du livre. Cette année, ce salon du livre va se tenir à Toulouse, sur la place Saint-Pierre, qui est une place qui a été rénovée. Donc en plein air, c'est une innovation, ce salon, par rapport aux années antérieures. Ce sera sous des tentes, il y aura plein de stands et des conférences comme d'habitude, donc où vous pourrez venir. Alors, seront remis des prix du roman d'histoire, prix du roman tout court, prix du roman de science, hein, du livre scientifique, et le prix de poésie. Alors, ce prix de poésie, en 2012, c'était Didier Turios qui l'avait, en 2013, je crois que c'était Michel Baglin, en 2014, c'était Francis Pornon, et en 2015, donc, c'est moi-même, donc, qui ai eu ce prix, avec Indalo, un recueil, paru aux éditions Encre Vive. Ça a constitué d'ailleurs le 441e numéro d'Encre Vive, Indalo. Et ce prix sera le prix 2016, donc sera attribué en octobre de cette année. Et nous en rendrons compte, bien entendu. Alors ce soir, je vais avoir le plaisir de vous lire Indalo en entier, puisque donc un an s'est écoulé et que je me sens autorisé à pouvoir lire ce livre, donc qui a été publié et qui est disponible toujours chez Encre Vive. Le numéro, comme tous les numéros d'Encre Vive, vaut 6,10 € et c'est toujours la même adresse, 2 allée des Allobroges, 31-770 à Coulommiers. Alors qu'est-ce que l'Indalo? L'Indalo, c'est une figure préhistorique qui se trouve dans l'abri des ruches, Abrigo de las Colmenas, et dans la grotte Los Letreros, dans la municipalité de Vélez Blanco, c'est la province d'Almería, en Espagne. Il s'agit d'une peinture rupestre de la fin du néolithique ou l'âge du cuivre, qui représente une figure humaine avec les bras étendus et un arc-en-ciel sur ses mains. Durant des siècles, avant qu'il ne soit catalogué, ce symbole était vu comme un symbole de chance et considéré comme un totem dans le nord et l'est de la province d'Almeria et particulièrement à Mojácar, où il était peint en ocre sur la maison pour les protéger des orages et du mauvais œil. On appelait le Muñequillo, Mojaquero. Depuis de nombreuses années, l'Indalo est le symbole de la ville d'Almería, de sa province et de ses habitants. Voilà ce que j'avais indiqué en quatrième de couverture pour donner des précisions sur l'Indalo, l'Indalo qui est représenté bien entendu en première de couverture. Alors, avec ce recueil, je perpétue ces poèmes radiophoniques pour Radio Occitanie, que j'avais commencé notamment avec El Barranco de la Sangre, qui était aussi le récit, parce que ce sont des récits de voyage, un récit de voyage, donc il faut entendre ces poèmes comme un récit, c'est sous forme de récit, poèmes radiophoniques, donc sous forme de récit. Et les prochains, ce sera un poème radiophonique également, sous forme de récit, et ce sera sur la Bretagne. Voilà. Indalo. La nuit encore, le soleil étouffant, mutile la fermentation du sommeil. Nous vivons désormais lovés dans ce désert où la terre n'est que poussière montant au ciel en d'étranges colonnes. Des îlots d'immeubles, parsemés le long d'avenues, vides, sans utilité, témoignent de la chute folle de la finance. D'immenses panneaux mendient un regard de compassion pour des paradis ruinés, mornés. Nous apprenons à apprivoiser le vide, créé par l'appétence sans mesure de l'homme. Le soleil dilue ces territoires abîmés dans la fusion de midi et enlace la mer qui console. Elle règne ici, un kilomètre de nous, dans ce lieu abusivement nommé Berra Playa. Le soir du balcon, dans les collines sèches qui mènent à elle, nous guettons les lapins, leur queue blanche réfléchissant la lune. Le vent charrie les mauvais jours, une odeur de fosse ouverte. Quelle blessure inflige ce deuil continu de cadavres fantômes. Vera, ville où culmine le soleil, dans une purulence torride. Mais l'ombre dans un jardin public l'éclaire généreusement d'une note avenante sur la magnificence des villas, volets clos, dépités d'un réel tout à leur silence. Et il n'y a que le silence, l'après-midi, pour rendre la ville à elle-même. Plus tard, l'intime reprend pied dans l'alternance de l'ombre et du soleil. Ombre ou soleil, selon sa fortune, l'aficionado s'installe dans la houle des arènes. S'en mêler des taureaux dans le sable doré où s'étire la tragédie. Ombre des grands, figés dans leurs photographies, bon aujourd'hui pour le musée taurin. El Cordobés et son visage, soudain fermé à la joie démente de la foule, des yeux noirs, de feu névrotique, qui défient la mort, rature d'une misère vainqueur. Dans le passage, surplombant le toril, je heurte ma tête à l'arche de pierre et m'affale, sonné comme le taureau qui n'a pas vu venir l'épée. Se peut-il que la mort dissipe toute question ? Dimanche de fête à Vera. Les éclairs cinglants du soleil de septembre lacèrent la ville. L'anodin n'a plus cours dans les rues désertées. Tous attendent à la sortie de l'ermitage la Vierge des Vergers, cette forme qui s'approche, submerge le destin d'un été qui décide de survivre à sa propre saison, de secouer l'éternité par la liesse et l'étourdissante chaleur. La lumière vient du tout. Elle dévisage la ville, qui célèbre l'absolu du simple. Dans la fournaise, tirée par un tracteur, la Vierge des Vergers sublime le charivari des fidèles et des sans-dieux de Véra. La vie se fête dans ce masque rayonnant où chacun clame sa fin de l'unique. Cette incisive ardeur résonne comme une pluie miraculeuse. Le vent léger la porte à la mer avec le crépitement des sabots des cavaliers andalous. Comme au carnaval, des chars fleuris précèdent la Vierge et des fillettes ravies en robes longues et talons hauts dansent. Les fandangos et autres boulerias martèlent de grâce la romeria de Vera. Les chants achoppent sur les rêves endormis et la procession marque le pas devant l'église Santa Maria de las Angustias. La Vierge des Angoisses, qui prédit le bonheur dans les cieux, fond toujours en larmes sur son socle, dans le cœur de l'église. Une grille empêche d'approcher la statue couronnée en robe bleue et or. La douleur ce dimanche est jetée au puits. La Vierge des Vergers impose la béatitude des chants profanes et des rires à gorge déployée. Deux religieuses, une blanche et une noire, un habit et foulard gris, sortent de l'église saluer l'autre Vierge et s'épongent abondamment le front. Des pensifs s'échinent dans le chaos fraternel des antinomies pour dessoudre tant de chaleur. Le soir, nous nageons dans la mer agitée, apaisée par le vent et les vagues, et sur le sable refroidi, tard après le coucher du soleil, nous élisons une présence dans la Bible infinie des étoiles. La lumière aurifère épaisse et sa chaleur de volcan distille à Aguilas sa finitude de ville idéale. Le bijoutier qui accroche un bracelet à ma montre avec la lenteur de celui qui n'aura ce jour plus d'autres tâches, providentiel comme l'air réfrigéré de sa boutique, me garantit de mesurer l'escorte du temps. Place d'Espagne. Une vieille dame, le front et la joue droite découpés de cicatrices, la beauté ébréchée, éclairée d'un rouge à lèvres rouillé, clopine, et vient s'asseoir près de moi sur un banc immergé dans l'ombre périssable d'un arbre séculaire. Elle me dit qu'elle est née à Aguilas, qu'elle y a toujours vécu et que certainement elle va y mourir, que c'est bien ainsi. Je pense à Lorca, mort près de sa grenade, avec un instituteur unijambiste et deux banderilleros, à sa terreur et à l'indestructible barbarie humaine. Mais le calme de la vieille dame grandit sans amertume, détruit l'ennui et apaise la mort. Mirador du songe, sur sa hauteur, le château Saint-Jean d'Aguilas, et bien ce refuge des aigles qui donnèrent leur nom à la ville. Les visions de guerre se perdent sur les murs aux entrées interdites et se noient dans la mer, fleurs tourmentées, tranchées à l'horizon. Le château veille sur ses fantômes. Ceux des Français partis à la conquête de l'Algérie en 1830 et qui de là contrôlaient le port, trempée de feu la mer de toutes parts, pas d'angle mort pour les canons. Dans la longue avenue de magasins, nous cherchons l'occurrence des choses sur les épaules de la ville. Garrocha s'étire, reptile ivre de soleil. Au port, les bateaux s'amarrent dans le rictus du temps compté. La peau brunie, les garçons de café s'affairent, impuissants, à étouffer les chants flamenco qu'ils fredonnent les yeux luisants. Quel ailleurs monte dans le duende, sous les bâches où transpire le soleil. VI. Espagne, celle de Machado, de l'absolue nécessité d'être homme, au pied de Palomares, d'immenses terres dépeuplées, des margelles mortes se souviennent, d'anciens jardins foulés par la lune sans peur. Un train de longue serre aujourd'hui cache le sol aux voyageurs. Serre, couleur terreuse, couvrant le paysage de leur morne uniformité où le soleil ne pénètre que voilé, dissimulé comme une femme morte pour retenir ses ardeurs incendiaires. Appuyé au silence du lieu, nous nous égarons. Un Algérien, survenu tel une invisible lampe, familier dans ce labyrinthe, guide à vélo notre automobile sur des routes étroites et pentues. Le soleil et l'effort le dessèchent. Il nous quitte, le devoir accompli, philanthrope heureux pour une ombre lointaine au-delà du regard. Avançant sur Torre, le village disparaît, dissous dans le miroir du soleil, ne reflétant plus que le vide blanc d'une terre en fusion. Sur la place, quelques vieux aguerris par de nombreux étés se taisent sous la complexité d'une haie d'arbres, taillée en hauteur, enguindée de feuillage. Les yeux fixes, tournés vers leur mutisme, ils fuient le néant qui les guette comme des fruits mûrs. Les enfants de Mojácar courent trois fois dans les rues raides de la ville. Ils sont fils de la falaise et du vertige. Ils aiment voir la mer loin, léguée des couleurs de vie. Leur ville perchée est blanche, petit Alger. Le visiteur fatigué fait son chemin avec l'ascenseur qui le hisse au casco antiguo. Mais les enfants préfèrent vieillir en se consumant dans de longues montées. D'en haut, la vue est un tableau sans cadre. Rien de la plaine n'échappe au regard. Les terres désolées, les pitons épargnés par le rabot de l'érosion, des oliviers dispersés, la mer triomphe de l'univers. Dans l'aridité millénaire, l'homme a creusé ses demeures dans la glaise de l'origine. Dans ces maisons troglodytes, les gitans pourchassés chanter leur liberté menacée. Perchée au sommet de la pyramide de la ville, l'église Santa Maria emprunte au vent sa complainte de douleur. Un Christ peint, gigantesque, brasier de lumière, éclaire l'autel de sa patience figée. Il illumine sa mère, une vierge triste, dans ses habits d'éternel dimanche qui attend, raide, dans sa nuque de bois, la procession prochaine. Toute cette beauté saint-sulpicienne réchauffe mon enfance oubliée, ce temps de l'illusoire douceur du monde, où les chemins de la foi ne reculaient pas devant les rebuts de la providence. IX. Retour à Mojácar. Sur la fontaine monumentale du bas de la ville, Fuente Moja, je lis que le premier maire arabe, Alvarez, a tenu parole. J'oublie très vite pourquoi. Tenir parole, en ces temps-là, était donc déjà si rare. Sur le monument nous menace un aigle bicéphale, blason du Saint-Empire, symbole de la maison d'Autriche, invité dans les lieux en 1488. Roi arabe, roi chrétien, se disputèrent ce piton face à la Sierra Cabrera, devenue un des plus beaux villages d'Espagne. Annonce faite sur les grands panneaux qui dirigent le visiteur. Chimère de prince et de roi. Le prince Felipe, avant d'être roi, se fait photographier dans un restaurant de Mojácar, exhibé comme un trophée de chasse. C'est peut-être à cela que servent les princes et les rois. À Barcelone, une étudiante interroge Felipe. « Dis-moi, à quoi tu me sers? Pourquoi je te paye ?» La ville blanche, vie de la monnaie ébréchée du commerce, dans de petits pots rustiques élevant le selfin et la fleur de sel de Cabo de Gata, et dans des flacons carrés de la liqueur de miel, flor de indalo, fleur de jeunesse. Le poète, par sa naissance, possédait le nom de cette ville pétrifiée de soleil, Lorca. Imitant Henri-Marie Raymond de Toulouse-Lautrec, qui portait haut le nom de la cité occitane, anesthésié, enveloppé par la croûte brûlante de la chaleur de l'après-midi, Lorca fait la morte. La ville ferme ses portes et ses fenêtres, fige ses rues vides dans le silence des montagnes nues qui la dominent. Bravant l'éblouissement de l'heure, nous marchons vers les hauteurs du château. Le roi Juan Carlos et la reine Sophie, alors fringant dans leurs années fastes, ont inauguré la mairie, fiers dans ces vieilles pierres restaurées. Pour se hisser à la forteresse du soleil, nom du château qui protège la ville, nous grimpons dans le quartier gitan, où la vie enfin apparaît, refoulant l'empreinte d'une vieille tragédie. Vautrées dans l'ombre étroite des façades, des femmes remettent à plus tard leurs travaux harassants, tout entière à ce répit, leur voix sourde, à peine dérangée par les cris des enfants qui jouent. Le poète Pechugue a vécu là, au pied de ce quartier, en hauteur. Lorca le fête, reconnaissante de ses beaux vers sur la ville, pose une plaque sur sa modeste maison natale et lui élève une statue pour qu'il regarde sa ville dans la para éternelle du temps. Nous parvenons à pied au château, haletant dans le pathos de la sueur. Taraudée d'un passé agité, la vieille forteresse se pare de charme nouveau, loin de l'ego mortel des victoires de l'histoire, mais une reddition forcée après 4 dures années de siège est-elle une victoire? Qu'en est-il du sort des guerres, nourri de trop de morts? et de toutes ces invasions lancées sur les chevaux emballés de la convoitise. Dans la forteresse du soleil, priaient les juifs. Les paroles psalmodiées s'en sont allées avec le vent des oiseaux. Dans les grands jardins, les religions se sont enfuies vers un héritage invisible. Demeurent les vestiges des maisons juives sur un lit de pierre et d'herbe étoilé de fleurs perdues. Les salons étaient vastes et sans crainte. On lisait la Torah dans la synagogue illuminée de vitraux restaurés tels que la laissèrent les derniers juifs de Lojka. La nuit est descendue dans les murs sacrés où les prières meurent. La lune irise le sol sans gisant de ceux qui traversèrent la mer pour d'interminables exils. Les chrétiens de Lorca, qui n'avaient pas de porte du non-retour à passer, laissèrent les lieux en l'état. Désabrité en sa demeure, Dieu a veillé sur sa pauvreté. Et seul en Espagne, cette synagogue n'a pas été reconvertie en temple chrétien. Indémodable, indénombrable, château en Espagne. Le château Nogalte surveille de haut Puerto Lumbreras. Les rêves ici durcissent les âmes trempées dans le soufre du soleil. Un souffle prisonnier des montagnes s'enlise dans la ville, apporte la puanteur des porcheries de la plaine. Ensablée de sommeil l'après-midi, la ville plonge par nécessité dans le désœuvrement du roman. Angela Bas et Mule Blanche, un homme mince à la barbiche noire, descendu des hauts quartiers, pressé de fuir de puissantes misères, nous suit puis nous précède. Où commence l'Orient ? La rivière Elcano, d'une absolue sécheresse, ne cède rien de la propriété incontestable de son lit démesuré. Ses colères assurent son respect sous ses ponts qui n'enjambent que des pierres et du sable. Les gitans de passage cachent leur errance à l'ombre des grandes arches. Nous voilà vagant puis divagant dans les quartiers de la ville quand une Marocaine, jeune et replète, nous montre la voie à prendre pour gagner le château. Sa famille vit à Larache. C'est là, à 100 km précisément de Tanger, que le père d'Isabelle menait son camion. Et moi, de l'évocation du lieu, tout homme dans notre croque-monde partage une blessure d'enfance dans la distance de l'autre. Du château Nogalte, dans les cornes des terres chaudes où se creusent les Casas Cuevas, nous épions ce monde troglodyte. On se hèle d'un trou à l'autre pour tout dire de l'insolite. Les gitans se hissent au-dessus de leur faim dans le bruissant Casco Antiguo. Dans la descente, apeurés par les chiens hargneux dans le rétrécissement du chemin, nous suspendons notre marche face au cadavre d'un coq saigné et jeté là, dans l'ombre d'un pan de mur, un avertissement d'un malheur immérité, d'une douleur sans voix. Tout en bas, un âne attaché court d'une corde de pendule nous implore dans de sonores et répétés braiements. Quand enfin il se tait, il bande sans vergogne et les mouches et le silence s'agglutinent sur son pénis. Totana. Au-dessus des larmes, une plaque unique appelle à l'hommage de toutes les victimes de la guerre civile 1936-1939. Bâillonnés, les murs et les oliviers qui ont reçu le sang des fusillés. Nous sommes dans l'après-saison des avalanches. L'irréductible main du temps a perdu dans le lointain les ombres tombales de la liberté. Dans le redécoupage des jugements, la nuit s'apaise et laisse sans cerne les survivants. Fuyant le chevet de l'histoire, de jeunes Sud-Américains parcourent la Rambla du Santo Cristo, cet ailleurs où ils vont naître désormais. Indalo. Indalo, symbole d'Almeria. Né dans les temps préhistoriques, par son influence, la jeunesse dure plus longtemps. Almeria, ta mémoire ivre, depuis des millénaires, raconte les rivages de la mer antique, l'inaltérable désir d'une traversée sans fin. La ville languit, anxieuse, d'une contraire immobilité. Enchaînée à l'Indalo, elle éblouit le passant et le marin qui accoste. Impérieuse, elle lègue l'assurance d'un rêve scellé à un dessein qui retient son destin. Elle mûrit une jeunesse, capturée par les primitifs ancêtres. Cette volonté entame le souffle de l'histoire. L'âme trempée d'Indalo, sillon de feu de l'obstinée jeunesse, corrige la gangrène noire des tyrans. En 1824, un monument en colonne est érigé sur la grande place de la ville en hommage aux victimes du féroce despotisme. En 1943, Francisco Franco le fait détruire. En 1988, le monument est reconstruit, place de la Constitution, en hommage à tous les hommes et à toutes les femmes qui ont donné leur vie pour la liberté. Il faut égrener son nom, lui mettre la main sur l'épaule, dans la froideur du bronze et de la mer, à Don Nicolas Salmerón y Alonso, président de la Première République espagnole, né à Alhama, la Seca, en 1837, et mort en exil, tribu fatale de la tradition républicaine espagnole, en 1908, dans la tolérante terre du Béarn, aimé de notre bon roi Henri, à la villa des elfes à Bière, près de Pau. L'éternité se joue de l'enthousiasme du possible. Almeria glorifie cet homme. Sa statue immobilise son destin dans un désastre heureux. Dans ce monde confus, un gigantesque ficus macrophilia creuse l'ombre du temps sur le boulevard de ses 18 mètres de haut et 5 mètres de diamètre. Il a grandi avec les siècles, dictant sans le vouloir la pensée des hommes, leurs gestes équivoques, leurs paroles effilées et étroites, comme les navires sur lesquels ils débarquent. Almeria, les eaux chaudes du port irriguent l'air salin qui caresse la ville pour des pantomimes de châtiment. Chacun y vint clamer sa prière, goûter au pouvoir pour des siècles d'indolence, un millénaire pour les Arabes, qui verrouillèrent les portes du château Al-Kazaba, fleurissant leurs jardins ou cavalcades de l'eau comme à l'Alhambra de Grenade. Navire à quai, désarmé, le château arabe, converti d'une croix, d'une cloche et d'un Christ, statufie, tord le cou aux vieilles figures, exhibe les photographies des artistes andalous. Et au bas des pierres millénaires, le port pacifié rumine avec la mer des rancœurs de notre âge qui agitent les cargos aux amarres. Est-il vrai que c'est la rivière qui a décidé de bâtir la ville au pied des grottes et de lui donner son nom, Cuevas de Almanzora? Cette rivière asséchée dans l'air inflammable de l'été. Les maisons troglodytes du Moyen-Âge ont été cédées aux gitans et à ces nouveaux immigrants venus de la mer vendre leurs bras dans les champs. La ville fut riche de l'exploitation des mines de plomb, puis des mines d'argent, et le marbre de Macael n'est pas loin. Vestige du faste passé, deux maisons éclairent les rues de leurs azulejos, mosaïques aux murs jusqu'au toit, et ces faïences impriment au regard la Bible, selon Cervantes, l'incarnation de l'Espagne, Don Quichotte, flanqué de Sancho Panza, Don Quichotte, qui savait que chacun est fils de ses œuvres, nadie vale más que nadie, que sa Dulcinée est fille de ses œuvres, et que les vertus corrigent le sang, le Quijote, désarçonné, mordant la dure poussière de l'Espagne, vaincu par les moulins à vent. La ville aussi cogne sa noblesse à l'impossible. Près de l'église, aux deux clochers rehaussés d'un obélisque et sous l'horizon remarquable d'une girouette et d'une croix, trois hommes, blanchis et tannés par tant d'années, palabrent gravement. La patronne de la ville, la Vierge Carmen, sera-t-elle canonisée en mai 2015 ? Interrompant la dureté de leur chuchement, l'un d'eux vient me taper sur l'épaule. Dans un aparté généreux, il m'invite, mieux qu'à courir au Pérou, à me rendre à la mairie, qui est, dit-il, plein de piété, la fierté de la ville. La belle bâtisse, apprêtée comme une reine, appartient au curé de Cuevas de Almanzora. Loin des livres de messe, il passa là toute une vie penché sur la beauté de l'art. Avant de rejoindre le reflet des ombres peintes par Andrea Giuliana, artiste italien de son siècle, et de se disperser dans les cendres en 1844, il fit don à la ville de sa riche demeure, différant ainsi les dévoiements du temps. Le peintre italien a laissé à la postérité, aux citadins, une descente de la croix, un jugement de Salomon, et au plafond du bureau du maire, un char de la victoire tiré par des pans. Mais quelle victoire s'avance dans cet accoutrement, dans l'eau nuageuse du plafond. Celle de José María Muñoz, qui fit don de 10 000 duros à la ville pour panser ses blessures lors de l'inondation de 1879 et qui, après l'accomplissement de son philanthropique dessein, fut appelé le Santo Negro. Sa statue en bronze sur la place de la Constitution ayant pris la couleur de la nuit épaisse des jours sans lune. Au château du marquis de Los Belles, le plus beau du Levant, maintenant mausolée de l'art contemporain, Francisco Aburra proclame que l'art alimente la paix. La paix! Goya la trouvait-il dans ses eaux fortes? Celle exposée au château sur la tauromachie, les vociférations de la foule comme décor dans l'arène. Toute la couleur d'Espagne est dans les eaux fortes de Goya, et l'Espagne, pure couleur, se résume dans la corrida, engeance des toreros. Les tourbillons des capes brûlent de folie leurs bras armés, saignées rouges des bêtes et des hommes, virilité ancrée à la mort. Chevaux, mules, chiens, tués au combat, et ce maestro, les pieds attachés, assis sur une chaise, le rend le taureau avec son sombrero, et ce fauve, minotaure enragé, qui atteint les gradins, tue le maire de la ville, et Charles V, qui fourrage de sa lance royale le garrot vacillant de la bête brave, au-delà de l'insolence des cornes. Regard voyesque, promontoire du langage, de l'opaque vanité meurtrière, où sans but le courage. Voilà, c'était Indalo, qui constitue le 441e numéro d'Encre Vive, et qui est un poème radiophonique, un récit d'un voyage, poème radiophonique pour Radio Occitanie. Véronica Aranda, donc Tatuaje, dont je vous parlerai la prochaine fois, mais que je vous invite bien entendu à vous procurer. Tout ceci sera sur notre site les-poètes.fr. Et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 10h.